On y va ? On va pour l'œuvre de la croix. Alors, tout ce que vous apprendrez dans cette école de disciples, tout ce que vous savez sur votre christianisme, tout ce que vous lirez dans la Bible, tout repose sur l'œuvre de la croix. Alors, tu dis à ton voisin, l'œuvre de la croix, c'est la base. C'est la base. Tu comprends la croix, tu comprends l'autorité du chrétien. Tu comprends la croix, tu comprends ton identité en Christ. Tu comprends la croix, tu comprends pourquoi Dieu guérit les malades. Tu comprends la croix, tu comprends le pardon et la grâce. Tu comprends la croix, tu comprends le cœur de Dieu. Tu comprends la croix, tu comprends l'église locale. Tu comprends la croix, si tu comprends la croix, tu comprends tout. La croix est la base. J'ai parlé avec un scientifique une fois qui m'a dit « Johanna, on ne fait que de découvrir le monde intergalactique, vous savez, les planètes et tout ça. » Et il m'a dit « Je pense que plus on découvrira, et à la fin, je suis sûre que l'univers est fait en forme de croix. » Avec toute la façon dont les planètes et tout, il m'a dit « On arrive vers une croix. » Alors je lui ai dit « Tiens, ça, je ne serais pas surprise. » Alors bon, on verra bien hein, avec le temps. Mais je crois vraiment que tout repose sur la croix. Et donc, comme on a dit que tout était spirituel, eh ben, la croix va être l'acte juridique le plus fort qui va se passer dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que la terre va trembler, c'est pour ça que les morts vont ressusciter. Vous connaissez l'histoire de la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il va se passer à ce moment-là un choc dans le monde spirituel comme un tsunami. Tout a été remis comme ça. Amen. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a Adam et Ève, ils pêchent. Et à partir de là, ça y est, le diable qui avait que des accès de temps en temps autorisés au ciel pour venir discuter avec Dieu, va se retrouver, mais content, de pouvoir se balader sur terre. Et c'est parti. Et donc, il va faire, n'oubliez pas, des œuvres dans le cœur. Il va mettre de la jalousie dans le cœur de Caïn qui entraînera le meurtre. Donc, c'est parti, il y va. Et le cœur du Père va être meurtri de ça, mais comme Dieu est juste, imaginez Dieu ne pas pouvoir bouger et rester comme ça et voir ses enfants souffrir et se dire, c'est leur choix et je ne peux rien faire. C'est terrible, hein? C'est comme si je voyais mon fils à moi se mettre des coups de poing tout seul. Vous avez déjà vu des parents démunis face à un enfant qui se tape la tête contre le mur, des trucs. Et toi, tu sais que tu ne peux pas agir parce que la loi spirituelle dit, c'est sa vie, il a choisi. Et puis Satan, bien sûr, il dit, il est à moi. OK ? Mais juridiquement, comme en France, comme partout, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut payer des cautions pour faire sortir quelqu'un de prison ? Donc juridiquement, à un moment donné, Dieu va dire, je vais créer une option qui fait que si la personne qui est à la merci de Satan en a marre et ne veut plus avoir affaire à lui et veut revenir dans le camp de Dieu, eh ben, il y a quelqu'un qui va pouvoir payer la caution. Ça va juridiquement, comment je l'explique comme ça ? Sauf que qui peut payer une caution ? Personne, pour l'humanité, personne, sauf le créateur de l'humanité. C'est le seul qui pouvait. C'est Dieu, il est loin d'être bête, hein. Il a vite compris, il a vite fait les calculs, et il a dit, il n'y a pas d'autre solution. Si je veux racheter l'humanité, il faut que ce soit quelque chose qui soit à la hauteur de l'humanité. Vous êtes d'accord que si, par exemple, ma voiture, je la vends, je ne peux pas la vendre à 2 euros, il faut que je la vende au prix de l'Argus. Oui ? Ben, c'est pareil. Donc, il n'y avait pas d'autre option. Donc, on va avoir Jésus qui va venir sur terre. L'Ancien Testament, c'est un tas de personnes qui essayent vraiment de s'en sortir et qui vont avoir vraiment, vraiment, vraiment du mal parce que légalement, l'ennemi a un droit. Et vous allez me dire, oui, mais le peuple d'Israël, regardez-les comme ils galèrent. C'est pas vrai ? Et ils vont même dire à Dieu, donne-nous la loi, et puis nous, on essaiera par nous-mêmes de tirer vers ce qui est bien pour sortir du mal. Et Dieu va leur dire, mais en fait, c'est pas possible, vous allez essayer, ça va être encore pire, parce que quand tu essayes et que tu n'arrives pas, qu'est-ce qui se passe ? En plus, tu es découragé. En plus, tu tombes dans la culpabilité. Donc, Dieu les a prévenus, mais bon, ils ont voulu essayer par eux-mêmes. Donc ça, c'est l'histoire de la Bible et comment je l'explique au mieux. Et j'avais fait une vidéo sur ça qui a fait des millions de vues en 2 jours. Et je vais essayer de vous l'expliquer un peu comme ça. Ça vous va ? Ça, c'est vous et moi. OK ? On est des petits humains. Et ça, c'est le péché. On a accepté le péché. Il est sur nous. Et bien sûr que Dieu, à n'importe quel moment, il peut venir écraser le mal. Il est Dieu, hein. Satan, il en fait comme il veut. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Vous savez, les gens qui vous disent, pourquoi Dieu, il n'arrête pas les guerres? Pourquoi Dieu? Ouais, parce que si Dieu vient, il écrase le mal, il écrase qui avec? Ben nous. Donc qu'est-ce qu'a dû faire Dieu? Il a dû venir et venir par en dessous. Okay.
Et il a pris l'homme avec lui, et après il a triomphé et il a écrasé le mal comme ça.
Il fallait venir par en dessous, il fallait prendre l'humain et le sauver, et après il pouvait l'arracher du mal. Mais s'il écrase le mal, il t'écrase avec. Il faut qu'il t'extirpe du mal. Vous suivez mon truc? Ça vous va? Donc c'est là où l'œuvre de la croix, elle arrive. Donc, on va commencer du basique simple. L'œuvre de la croix, ce n'est pas que du spirituel, juridique. C'est un fait réel qui s'est passé. Là, je vais vous parler que du réel. Jésus est vraiment venu sur terre. C'est le personnage historique qui a le plus marqué l'histoire de toute l'humanité, plus que Napoléon, plus que Hitler, plus que la reine d'Angleterre. Jésus, il vient, il est un petit charpentier, il ne va pas dépasser 300 km autour de chez lui à pied ou en âne. Il n'a pas, c'est pas Alexandre le Grand, il n'a pas conquéri, il n'a rien fait. Et son impact sur le monde est énorme. Donc spirituellement, au moment où Jésus est venu sur terre, ça a fait... Okay. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment venu. Alors, l'œuvre de la croix, il faut que j'arrive à vous la faire en une session, c'est impossible. Donc ce que j'ai fait, par exemple, historiquement, je vous ai pris le moment où il y a 3 heures de nuit. Vous savez quand il est crucifié, il va faire nuit pendant 3 heures. Rien, je pourrais vous expliquer historiquement la véracité de Jésus avec tout ce qui est des éléments historiques, archéologiques et tout ça. Et là, il nous faudrait peut-être tout un trimestre pour le faire. Hein, il faut faire une fac de théologie. Donc là, par exemple, je vais vous prendre juste quand la Bible dit qu'il y a eu 3 heures de nuit. S'il y a eu 3 heures de nuit, je ne vous parle pas des chrétiens, les inconvertis qui étaient là, les Romains qui gardaient des rapports, qui suivaient les étoiles et tout, ils ont dû le marquer. Eh bien oui. Donc là, je ne vais pas vous citer la Bible, je vais vous citer des faits historiques sur juste, par exemple, cet événement de la croix. Ça vous va? Alors, ce phénomène est rapporté dans les trois évangiles, hein, des ténèbres sur toute la terre, vers midi jusqu'à 15h. L'événement se produisit en période de pleine lune pascale, ce qui implique une impossibilité d'éclipse solaire. Qui est scientifique ici qui peut le... Il y en a qui sont dans la science, non? Okay, c'est juste impossible en fait, ok? Bon, bref, vous verrez ça. Vous allez sur Google ce soir. En plus, une éclipse solaire totale ne peut durer que quelques instants et pas 3 heures. Vous êtes avec moi, hein? Je crois que la plus longue qu'on a eue, c'était un quart d'heure une fois. J'ai regardé. Bon. Mais ce phénomène unique reçoit aussi de nombreux témoignages historiques extra-bibliques. Donc, on a Diogène, un philosophe contemporain de l'événement. C'est un philosophe, il n'est pas chrétien, lui. Il n'en a rien à faire de Jésus, ok? Il n'est pas croyant. Lorsqu'il vit les ténèbres en plein midi en Égypte, parce que la Bible elle dit que c'est sur toute la terre, ok? Il s'exclama avec une perspicacité étonnante, soit l'être suprême en personne souffre à cet instant, soit il compatit avec quelqu'un qui souffre. Ils se sont dit, il se passait un truc, quoi. Au deuxième siècle, je ne sais pas si vous connaissez Tertullien, enfin voilà ceux qui font de la théologie, défia ses adversaires païens par les mots suivants. Au moment de la mort de Christ, la lumière se sépara du soleil et la terre fut dans les ténèbres à midi. Ce miracle est relaté dans vos propres annales et vous l'avez conservé dans vos archives jusqu'à ce jour. En fait, les Romains et les Grecs, c'est l'avantage qu'on a vu qu'ils croyaient aux astres et tout ça, ils ont tout répertorié. Donc ils ont dit. Ils ont dit, tel jour, il s'est passé telle chose. Lorsque Tertullien, juriste et théologien, écrit son apologie du christianisme en l'an 197, à l'intention des autorités romaines en Afrique, il précise encore à propos de la mort du Christ. Et cependant, attaché à la croix, il a fait beaucoup de prodiges propres à cette mort. En effet, de lui-même, il rendit l'âme avec ses dernières paroles, prévenant l'office du bourreau. Au même instant, le jour fut privé du soleil au moment où il marquait le milieu de sa course. On crut certainement que c'était une éclipse et ceux qui ne savaient pas que ce prodige avait aussi été prédit pour la mort du Christ n'en comprenèrent pas la raison. Ils le nièrent et pourtant vous trouvez consigné dans vos archives cet accident mondial. Donc il leur dit, ça a été prophétisé, ça a été dit, ça a eu lieu, allez voir vos archives. C'est un petit peu comme si moi, je vous disais, le 11 septembre a eu lieu. Vous n'avez qu'à aller voir, allez voir. C'est-à-dire qu'il n'essaye même pas de dire, parce que bon, ça, tout le monde savait que Jésus était venu, hein, historiquement, c'est comme nous, on sait que De Gaulle, voilà, en 197, quelques années après, qu'il y avait Jésus, ça, personne ne le niait, qu'il y avait un bonhomme qui a un peu marqué son temps. Par contre, les miracles et tout ça, les gens, ils peuvent questionner. Ça peut être un baratin. Moi, je peux vous raconter, une fois, j'ai prié pour une fille, elle a été guérie. Vous me direz, et lui, il dit, ben, allez voir vos archives. Même vos scientifiques et tout, ils le disent. Et Tertullien rend ce témoignage important, donc Tibère. Alors qui est Tibère? Qui a fait de l'histoire? Tibère, c'est l'empereur à l'époque de Jésus. Ouais, vous suivez un petit peu, c'est... Alors vous allez me dire, maintenant c'est César, oui, mais Tibère, tous les empereurs se faisaient appeler César. Ouais. L'empereur Tibère de l'époque va demander à ce que Jésus soit mis dans le Panthéon. Le Panthéon, c'est quoi? C'est là où ils ont tous leurs dieux. Parce qu'il s'est dit, un saint a marché sur terre. Donc le Sénat va se retrouver, vous retrouvez tout ça dans l'histoire, le Sénat va se regrouper et ils vont voter, et forcément c'est les Romains, la plupart vont voter contre. Mais Tibère, lui, l'empereur, dans les archives, a dit, mais un saint a marché parmi nous qui faisait des miracles et ressuscitait les morts, il doit être dans notre panthéon. Donc, on continue. Hein. Tertullien rend son témoignage important. Donc Tibère, sous le règne de qui le nom de chrétien a fait son entrée dans le monde, soumis au Sénat les faits qu'on lui avait annoncés de Syrie-Palestine, faits qui avaient été révélés là-bas la vérité de la divinité du Christ. Et il manifesta son avis favorable. Le Sénat, n'ayant pas lui-même vérifié ces faits, vota contre. César, donc Tibère, hein, persista dans son sentiment et menaça de mort les accusateurs des chrétiens. En fait, ils sont très superstitieux, les Romains. Et là, c'est César. César, il va quand même dire, on doit le mettre parmi nos dieux. Et il va les menacer même de mort, mais le Sénat va voter contre. Mais tout ça, c'est dans les archives. Ok, ça vous va? Le célèbre historien Eusèbe de Césarée confirme ce phénomène des ténèbres sur toute la terre en rapportant un texte de Phlégon, affranchi de l'empereur Adrien et auteur contemporain de cet événement. En la quatrième année de la 202e Olympiade, il y eut une éclipse de soleil, la plus grande que l'on eût jamais vue. Et la nuit se fit à la sixième heure du jour, au point que les étoiles furent visibles même dans le ciel. L'éclipse, elle a duré longtemps. Hein. Et un grand tremblement de terre ressenti en Bithynie causa de nombreux bouleversements à Nicée. Donc, scientifiquement, ils le disent. Le fameux docteur et apologie Origène confirme le témoignage qu'a laissé Phlégon. Quant à l'éclipse arrivée au temps de Tibère César, sous le règne duquel il est avéré que Jésus fut crucifié, et quant au grand tremblement de terre de la même époque, Phlégon lui-même en a fait mention dans le 13e ou 14e livre de ses chroniques. Donc ils ont marqué, mais imaginez, il y a quand même eu un événement énorme, toute la terre a tremblé, les morts sortaient des tombes, et il y a une éclipse. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont passés à côté quand même. Et c'est pour ça que quand j'évangélise des musulmans, moi j'aime utiliser que l'histoire. Je leur dis, ben ok, admettons que Jésus n'est qu'un prophète, maintenant on va y aller, parce que ce prophète, visiblement, il a marqué l'histoire. Notre calendrier, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc pour un simple prophète, tous les autres prophètes, ils n'ont pas fait ça. Et il y a des choses qui, historiquement, marquent le monde. Quoi. Dans les archives romaines, les journaux publics officiels de Rome, appelés Actes d'Irune, de l'Empire romain, dans ceux datant de l'époque des empereurs Tibère et Caligula, nous trouvons cet extraordinaire témoignage. Des observateurs ont rapporté pour la province de Syrie un étrange obscurcissement de la lumière du jour. Le phénomène aurait pris place à la sixième heure du jour. Il aurait été d'une durée anormale. Très inquiets, des paysans de Damas auraient vu le lait tourner dans leur amphore. À Nicée, on a offert des sacrifices à Jupiter, capitalement ils ont dû flipper, hein, afin que le grand dieu demeure favorable aux habitants de la cité. Cnosus Zetius a consigné l'événement dans l'éphéméride dominicale en 2 des Trébins Agrippa, 19e année du principat du César Dirius Graminius Tibère. Donc, c'est dans les rapports. C'est dans les rapports. Ça, je pourrais continuer à vous en lire plein sur toutes sortes de preuves que Jésus était là, qu'il s'est passé quelque chose, sans même vous parler de la Bible. Vous savez que vous pouvez évangéliser quelqu'un sans même la Bible, des fois. Vous lui prouvez. Vous pouvez lui prouver. Alors, qui a déjà été en Israël? Voilà, historiquement, il y a juste les faits. Hein. OK ? Donc ça, c'est le côté, de la croix. C'est juste pour vous dire, spirituellement, il s'est passé quelque chose, mais c'est réel. C'est réel. Parce que j'ai peur que dans les croyances, on croit, et c'est ce que les athées nous reprochent, on est des naïfs, quoi, qui croyons qu'il y a des licornes, et puis que Jésus... Alors, les historiens ne nient pas Jésus, hein. L'avenue de Jésus, ils ne peuvent pas nier Napoléon, Hitler, ils ne nient pas. Mais ils nient tout le côté un peu mystico autour de Jésus. C'est ça qu'est nié. Et si vous réfléchissez bien, tout va être d'accord avec la Bible et tout ça. C'est toujours la personne de Christ qui est contestée. Je vous donne un exemple. L'islam est d'accord qu'il y a la Bible. Elle est d'accord qu'il y a Moïse, qu'il y a Abraham. Ils sont d'accord sur tout. Mais Jésus n'est qu'un prophète. Tout va être toujours contesté. Ah oui, Jésus, il est venu sur la terre, mais il n'était pas Dieu. On va contester l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'œuvre de la croix, c'est votre plus grand appui, votre plus grand rocher, votre plus grande assurance. C'est ce que Jésus a fait. Ce n'est pas qu'un personnage qui a marché. Il est venu, je vous l'ai prouvé, il est vraiment venu et il s'est vraiment passé quelque chose. Alors pourquoi je vous ai sorti ces faits historiques-là? C'est parce que je n'ai pas les faits historiques des 10 lépreux qui ont été guéris. Okay? Par contre, ceux-là, je les ai, les faits historiques-là, d'un événement énorme que tout le monde ne pouvait pas nier. Oui?
Tiens. Où est-ce qu'on peut retrouver ces faits? Parce que si on en parle justement à un non-croyant qui nous dit « Oui, mais tu sors de... Enfin, d'où ça sort ton truc, on n'en a jamais entendu parler. »
Historiquement, ça... là, je t'ai mis les sources, par exemple. Historiquement, ça, à chaque fois, je t'ai cité d'où ça venait. En fait, n'importe quel historien est d'accord, et j'aime les historiens très honnêtes, c'est comme les scientifiques très honnêtes qui finissent par dire « Ouais, ça commence à faire beaucoup d'éléments qui concordent quand même. » La science, ça vous verrez dans un autre module, finit vraiment par prouver la Bible, ou la Bible prouve la science, peu importe dans quel sens. Mais historiquement, il y a vraiment... un bonhomme qui a débarqué sur la planète et visiblement, ça n'a pas laissé le monde indifférent au point où on est la plus grande religion du monde alors que le gars était un petit charpentier et qu'il a marché en sandales pendant 3 ans. Il fallait quand même le faire. Et donc tout ce qu'il a fait, il y a eu un impact, dit à ton voisin, spirituel. Il est venu et visiblement, il n'est pas que venu. Ça a bougé dans le monde spirituel. Et tout s'est juridiquement, spirituellement inversé au moment de la croix. Et c'est pour ça que vous allez avoir des démons qui courent vers lui et qui lui disent « Qui es-tu, toi? Tu viens nous chercher ?» Ils ont commencé à flipper. Le Fils de Dieu est descendu sur terre et ils ont commencé à se dire « oh non, on va perdre, oh non. » Eux, ils savaient. N'oublie jamais, le monde spirituel, c'est tout. C'est toi qui dois comprendre comment ça marche. Oui ? Jésus l'enquête.
Ouais.
Oui, vous pouvez regarder. Voilà, tu fais bien de le dire. Vous prenez Jésus l'enquête, le film, il est sorti il y a quelques années. Mais c'est le film de. Le livre du journaliste. Moi, je l'avais lu à l'époque à l'école biblique il y a 20 ans. Et vraiment, je trouve qu'il répertorie très bien les preuves de l'existence du Christ. Hein. Lui, il veut juste prouver l'existence et il en arrive à la divinité, en fait. C'est un journaliste à la base. Voilà, sa femme se convertit, ça le rend fou, parce que voilà, et à partir de là, il va chercher. Oui, par exemple, regardez, mettez dans vos devoirs, regardez Jésus l'enquête si vous voulez pas lire le livre. Mais et ça va être un des best-sellers au monde, d'ailleurs, ce livre-là, Jésus l'enquête. Donc, c'est The Case of Faith en anglais. The Case, c'est le comment on dirait ça en français? Le cas, tiens, juridiquement, The Case, comment tu dirais? L'affaire. L'affaire, voilà. Et il va utiliser d'ailleurs des faits juridiquement. À la fin, il dit, c'est plausible, j'ai les preuves. C'est à la fin de son livre, hein. Il dit, j'ai eu les preuves. Donc, de toute façon, historiquement, personne ne va te contredire que Jésus existait, mais on va contredire son petit côté divin. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien historiquement me dire, ok, si Jésus était vraiment là, si c'est vrai, parce que moi, je suis un peu comme ça, je ne sais pas si vous êtes pareil, j'aime pas planer, moi, vous savez, dire... J'aime bien quand c'est vrai, quand c'est... Voilà. Et donc, du coup, scientifiquement, vous verrez ça avec quelqu'un, un autre intervenant, pas moi. Et aussi tout ce qui est historiquement, si Jésus est venu et si la Bible elle dit qu'il a fait des miracles ou des trucs bizarres, on doit le retrouver. Les Romains, ils avaient des registres pour tout. Les Grecs, vous voyez, et c'est ça l'avantage. D'ailleurs, pourquoi Jésus est venu à ce moment-là et pas avant? J'ai trouvé le moment de la venue de Jésus hyper intelligente. Il est venu au moment où il y a la langue grecque, du coup c'était la langue internationale, le message s'est répandu très vite. Il est venu au moment où les Romains faisaient des routes, il a envoyé les disciples, il y avait des routes partout. Et franchement, Jésus, vous savez, à la fin, quand on ira au ciel, on ne pourra que contempler et dire « ton plan était parfait ». Il a dû se dire, parce que moi des fois je disais « Seigneur, l'Ancien Testament c'est chaud quand même ». Ils devaient tous se dire « quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient ?» Et c'est Dieu, il règne en majesté. Hein. Il devait être là et dire « vas-y Satan, continue, je vais arriver au moment où je vais tout faire péter ». Et il est venu au moment, et à un moment où il a vraiment tout fait péter, Jésus. Amen. C'est vraiment des... Je ne sais pas si vous regardez des films de guerre, quoi. Mais toute stratégie de guerre, il y a un moment donné, ils disent « attendez, attendez !» Après, ils disent « feu !» Et Jésus, c'est ce qui s'est passé. Il a dû... Le diable, ce n'est pas lui qui mène la danse. Dieu, il fait un plan parfait. Amen. Un plan parfait. Donc, du coup, l'œuvre de la croix. Normalement, votre esprit va bondir de joie pendant que je parle. Ça marche ? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. La croix est l'événement qui démontre parfaitement qui est Dieu. Si par exemple, je voulais vous présenter qui est Pierre, Pierre y viendrait, il vous ferait un plat parce que Pierre a un restaurant, est cuisinier. Il aime bien parler, il parlerait de tout ça. Et à la fin, vous direz, ah oui, ça c'est Pierre. Okay. Et bien la croix, si tu regardes à la croix, tu as tout vu de Dieu en un symbole. La croix reflète tout ce qu'est Dieu, c'est-à-dire... Dieu, il est amour. L'amour exige qu'il y ait une personne à aimer. Dieu, il a donné sa vie pour qui, à votre avis? Pour une autre personne, pour quelqu'un d'autre. Ça démontre l'amour absolu. Vous savez ce que j'aime dire, moi, aux enfants, hein? Je leur dis, Dieu, il t'aime grand comme ça. La croix, c'est la preuve d'un amour énorme, parce qu'en plus... Il y a des gens, des fois, qui m'ont dit, ben quoi, j'en ai autant des Romains, plein de gens ont été crucifiés, pourquoi lui, tu vois? Sauf que la Bible, elle dit que lui, il a pris à ce moment-là, il s'est fait pécher, il a pris tous les péchés du monde sur lui en un instant. Les autres, ils ont eu mal, mais Dieu, il a eu mal. Mal. Et vous savez, il va refuser, vous savez, le vinaigre qu'on veut lui donner à boire avant la crucifixion, parce que c'était un anesthésiant, il va accepter de dire, je dois payer. Si la dette était de 1000 euros, on lui a dit « allez, 800 et ça passe ». Il a dit « non, je paierai les 1000 ». Ok ? Donc c'est différent quand les gens ils vous disent « oui, mais il y a eu d'autres crucifiés ». Lui, il a passé un très très mauvais moment. Vous savez combien de temps il reste accroché sur la croix ? Vous savez, je vous l'avais dit. Non. En tout, entre le moment... Ben, ce sera votre devoir. Ce sera votre devoir, ok ? Vous regardez, normalement, ils doivent mourir assez rapidement d'asphyxie, d'accord? Mais il y a vraiment un supplice de la croix que lui, il va vivre. Ok. Si Dieu est amour, il a aimé et il aime de toute éternité, car Dieu ne change pas. Cela veut dire qu'il a toujours eu quelqu'un à aimer éternellement. Alors vous allez me dire, bon alors, il y avait qui alors? Ben dans la Trinité, il y avait une parfaite combinaison d'amour, parfaite de respect mutuel, et on le voit partout dans la Bible. Hein. Regardez, on continue, on est là, le Père glorifie le Fils glorifie le Père, le Saint-Esprit. Il est amour. Ça, c'est du plastique, ok ? Ça, c'est du plastique, ça, c'est du papier, et Dieu, sa matière, c'est l'amour. Donc, en fait, il ne pouvait pas faire autrement que d'aller sur la croix, c'était qui il était, ok ? Et c'est-à-dire qu'il va utiliser... Pour renverser juridiquement la condamnation, il va utiliser l'amour. Dis à ton voisin, l'amour renverse tout. Quand tu aimes, tu désarmes toute arme de l'ennemi. Imagine quelqu'un qui te haït et qui t'envoie des insultes et toi tu continues à l'aimer. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça s'arrête. Enfin, ça ne marche pas. Il n'y a pas de réponse en face. L'autorité spirituelle la plus grande dans le monde spirituel est l'amour. Et tu vas me dire, oui, mais Johanna, alors c'est là où c'est important, tu vas me dire, mais Johanna, Dieu est aussi juste. Si quelqu'un est horrible avec moi, Oui, ben justement, l'amour rétablit la justice. Tu vas me dire, mais un juste juge, Johanna, il ne fait pas un violeur quand même. Non ? Mais l'amour peut changer le cœur du violeur. Je sais que c'est des paroles fortes, mais il faut que je vous pousse au bout. Ça vous va ? Je vais vous pousser au bout. Parce que souvent, le violeur a été violé aussi. Ça c'est encore autre chose. Mais en fait, quand je vous ai dit depuis le début, Satan, il pourrit le cœur qui fait des actions mauvaises. Et Dieu, il utilise l'amour pour changer le cœur qui change les actions. Tu ne peux changer que si tu as compris l'amour de Dieu. À chaque fois que quelqu'un me demande un entretien et me dit qu'il combat quelque chose, je cherche à comprendre à quel moment il n'a pas compris l'amour de Dieu. Tout péché repose sur le fait que tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, oui, pardon. Ah, vraiment, ouais. Non, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. C'est trop grand. Ton cerveau, n'oublie pas, hein, ton âme, c'est ton intelligence et tout ça. Dis-moi à quel moment on peut comprendre qu'un Dieu parfait, merveilleux et tout ça meurt pour des pourris comme nous. C'est injuste, c'est bizarre. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que, honnêtement, souffrir tout ça pour avoir des gens après qui le rejettent, moi, non. Enfin, non. Alors déjà, quand on me fait un sale coup, j'aime pas. Alors, si je me fais flageller et qu'après, tu me manques de respect alors que je l'ai fait pour toi, enfin, je ne sais pas, par exemple, tu vas te faire écraser, je me jette devant la voiture, je te sauve la vie et je te vois après faire « Ah, merci, hein, ciao !» Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait à Christ, quoi. Hein. C'est un peu ça le truc, quoi. Donc, ouais, c'est une révélation. Dans chacune des personnes de la Trinité, il n'y a aucune trace d'égoïsme, d'égocentrisme, d'individualisme. Aucune des personnes de la Déité ne vit pour elle-même, chacune d'entre elles vit pour l'autre. Le principe du désintéressement et du renoncement à soi-même et du don de soi est inscrit au cœur même de la Trinité. En fait, Dieu, vous rappelez, il était avec les anges et tout allait bien. Et il est tellement pas égoïste qu'il crée l'humain. Et vous savez que comme il sait tout, vous savez qu'il a créé l'humain en sachant que l'humain allait le trahir. Vous vous rendez compte? C'est comme vous et moi, on a fait des enfants en sachant qu'on allait moins dormir la nuit, que ça allait nous coûter de l'argent. C'est pas vrai, les enfants, ça coûte. Hein, vous allez voir quand ça chose du 46 le prix des baskets. Ça coûte cher, ces machins-là. Et on fait quand même des gosses. Ça montre qu'on est fait à l'image de Dieu. C'est pour ça que je suis contre la doctrine de sans enfants, ce truc. Hein. Et l'homosexualité ne donne pas d'enfants. Vous savez, on dit souvent l'homosexualité, c'est des gens très centrés sur eux-mêmes, leurs émotions et tout ça. Ce n'est pas qu'une sexualité anti-biblique. Si tu pousses le truc, c'est très moi-je, très émotionnel, très machin. Ils ont beaucoup d'argent à Paris. Ils me disent toujours, oh bah ouais, c'est facile, les homos, ils n'ont pas d'enfants, ils ont plein de thunes. Ben oui, oui, oui. Vous voyez, en fait, il faut comprendre. Il ne faut pas s'arrêter, il faut comprendre le monde spirituel, le mensonge qui est mis en place et tout ça, et la notion du christianisme. Le principe de la croix, du renoncement à soi-même, est donc dans la Trinité même, c'est-à-dire dans sa nature, Dieu avait déjà le renoncement à soi-même, la mort à soi et tout ça. Chez Dieu, c'est une façon de vivre qui a existé en lui de toute éternité. Le principe de la croix a toujours été dans le fond même du cœur de Dieu. Après la chute d'Adam, la croix de Golgotha, la croix historique, n'est que le reflet du cœur de Dieu. La croix est le plus grand événement historique. Elle exprime les qualités, le mode de vie des trois personnes de la Trinité. Elle fait partie de la nature même de Dieu. La croix ne touche pas seulement au pardon, elle est une façon de vivre inscrite au plus profond du cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il nous dit quoi ? Qu'il faut porter notre croix. La croix, c'est un événement juridique qui s'est passé, et à partir de là, ça a tellement marqué la terre que Dieu, il a dit maintenant, tout va se suivre la croix, prendre l'exemple de la croix. Vous allez faire, Jésus, il dit, vous voyez, je suis mort, alors vous aussi mourrez. Vous voyez, j'ai aimé, alors vous aussi mourrez. La croix, en fait, les gens, vous savez, ils sont marrants, les gens, ils croient qu'on est en France et qu'on a des belles lois et tout ça. Mais elles viennent d'où, nos lois ? Si tu remontes, c'était la Bible. Hein ? La Constitution des États-Unis, elle est fondée sur la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui a été juste, tout ce qui a été rétabli, tout ce qui a été... C'était la croix qui l'avait inspiré. C'est pour ça que maintenant, plus on s'éloigne de la croix, plus vous voyez que nos lois s'éloignent aussi. Vous suivez le truc ? La croix, c'est spirituel et naturellement, il s'est passé quelque chose dans mon spirituel en disant « ça c'est la justice, ça c'est juste ». Et à un moment donné, quand on s'éloigne du christianisme, les lois dévient aussi. Il faut ramener le message de la croix. Je crois que si on annonce le message de la croix, vous verrez, notre pays va se redresser. Parce que c'est un message de justice. Amen. Ça va rétablir la justice. L'amour, le don de soi, le renoncement à soi constituent la base même du caractère de Dieu. Martin Luther, il dira, n'écoute pas Jésus glorifié avant d'avoir vu Jésus crucifié. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment parler aux gens de notre Dieu, qu'il est tout puissant, merveilleux, qui fait des miracles, hein, eh ben, assurez-vous de dire que c'est quelqu'un qui meurt, qui est flagellé, qui donne sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on s'est trompé. Hein. On a annoncé un christianisme à des gens en disant « Mais viens à l'église, tu verras, il y a des miracles, les gens ils sont guéris, ils sont libérés et tout. » Et on n'annonce pas la croix. L'évangile, c'est la croix. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des chrétiens, ne m'en voulaient pas, très tièdes. Parce qu'on leur a annoncé un Jésus glorifié au lieu d'un Jésus crucifié. Et la vérité, c'est que tu dois vivre, toi, un christianisme crucifié, non? Ben oui, hein. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais c'est, je pense qu'on s'est trompé. Quand on a décidé de faire l'école de disciples, je leur ai dit, il faut commencer par la croix, parce qu'on va leur raconter les miracles, on va leur raconter, on va booster leur foi, mais on ne va pas leur enseigner qu'en fait, c'est une vie donnée, le christianisme, c'est la croix. C'est donc, ouais, bref, ça va rentrer par le Saint-Esprit, amen. Parce que normalement, personne n'a envie de mourir, hein. Et le cœur de Dieu à travers la croix, donc sa prochaine page, pardon, était également de réunir à nouveau la famille. N'oubliez pas, quand le diable est venu, il a amené la division. Le divorce, c'est démoniaque. C'est le diable qui veut exploser les familles. Les papas qui quittent les foyers, les amis qui se disloquent, les églises qui explosent. C'est une œuvre maléfique de l'ennemi. Et Dieu, il a dit, il n'y a que par la croix que je vais pouvoir les rassembler à nouveau. Le but de la croix, c'est de inverser le diable qui est diviseur des frères. N'oubliez pas, juridiquement, il se passe quelque chose où Dieu ramène la justice. Parce que tu vas me dire, alors comment ça s'est fait? Ben, on va dire ensemble, le but de Dieu, à cause de sa nature qui est d'aimer, a toujours été d'avoir une famille nombreuse de fils et de filles. C'est pour ça qu'il vous a créé. Hein. Et qu'il allait pouvoir déverser sa gloire et son amour et une multitude de fils et de filles qui allaient refléter sa gloire. Sa vie, son amour, sa joie, sa paix, sa capacité à vivre en harmonie avec d'autres personnes. Une multitude de fils et de filles héritiers, héritières, qui allaient partager sa gloire et ses richesses, avec qui il allait pouvoir connaître les joies de la communion et qui allait lui rendre gloire. Écoutez, c'est un de mes versets préférés, Hébreux 2:10. Car il convenait pour lui, donc Christ, hein, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, qui amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Alors, le verset, il faut le lire 6 fois avant de le comprendre, hein. Il dit, il voulait tous les rassembler pour la gloire et c'est par sa souffrance qu'il y est arrivé. Alors tu vas me dire, alors quel est le rapport, Johanna? Comment, en mourant sur la croix, il ramène tout le monde à lui? Ben parce que ça a ouvert la porte du salut. Et du coup, c'est là où l'Église est née. C'est là où les gens ont commencé à être ensemble. Tu as remarqué qu'à ta conversion, il y a quelque chose en toi où tu es mal à l'aise quand tu es en dispute avec quelqu'un? Ça, c'est parce que ce qui était dans le cœur de Dieu, et puis c'était bloqué avant, Dieu y paye, et du coup, ça y est, ça peut recirculer dans ton cœur, parce que Dieu a payé. Donc, honnêtement, la raison pour moi où je peux capter que quelqu'un n'est peut-être pas encore sauvé, c'est quand je le vois continuellement dans des histoires. Continuellement, hein, si tu te prends la tête avec ta belle-mère, ça arrive. Hein. Mais quelqu'un qui est tout le temps dans la division, à un moment donné, je me dis, mais où est l'Esprit de Dieu? C'est pas possible. Et du coup, au lieu de toujours lui dire ce qu'il ne doit pas faire, je finis par me dire, mais peut-être qu'il faut que je le ramène au salut. Et des fois, les gens ne sont pas chrétiens, en effet. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a une œuvre de construction qui se fait. Tu n'as pas envie que ta famille soit sauvée? Voilà, ça, c'est le Saint-Esprit en toi. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu dirais, eh ben, chacun sa merde, hein. Chacun paye pour ce qu'il a fait, hein. C'est kiff-kiff. Hein. Mais quand tu es chrétien, il y a un truc, j'appelle ça la colle, moi. Et c'est pour ça que quand tu es en colère contre quelqu'un, en colère contre ton conjoint et tout, c'est ça, tu peux être sûr, c'est l'ennemi. Donc l'œuvre de la croix, elle a eu pour but, c'est comme si, vous tous, vous êtes fâchés les uns avec les autres. Et puis, Jésus, il va dire, je vais payer pour que après tout ce qui les divise soit retiré et qu'ils puissent se retrouver ensemble. Il aime tellement l'unité, Dieu. Vous savez quoi ? Vous voulez voir des miracles, des guérisons et tout ? Battez-vous pour l'unité. Surveillez votre bouche, ne faites pas d'histoire. Moi, je l'ai vu, hein. Si j'ai un problème avec quelqu'un et que je dois prêcher après, je sens pendant que je parle, c'est pas... Mais si je suis en paix avec les gens, et le Seigneur il m'avait dit vraiment, Jonah, reste au maximum de tes capacités en paix, la Bible dit autant que ça dépende de vous, pour que j'ai de l'autorité quand je vous parle. Parce que Saint-Esprit, sinon, il n'est pas d'accord. Ouais ? Et c'est pour ça que la Bible, elle te dit, fuyez la dispute. Donc, Dieu a donc créé l'homme à son image, désirant que l'homme reflète cette merveilleuse capacité divine de vivre en harmonie. Dieu, c'est un happy people. Il a la Trinité, il aime l'amour, il aime les gens. Et ça, c'est inscrit en toi. Tu vas me dire, non, moi, je suis agoraphobe, c'est ça ? C'est quand on n'aime pas les gens ? Ben, c'est que tu as besoin de délivrance, mais tu es fait pour être avec les gens. Qui, honnêtement, ce matin, dit, moi, j'aime bien être avec des gens ? Ouais, moi aussi. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans ta vie, tu peux être sûr. Et si tu as un côté un peu sauvage, eh ben, ça, c'est parce que l'ennemi ne veut pas. Mais Dieu, il va libérer ça. Amen. Donc, le but de la croix, c'était de te montrer qui est Dieu et puis de rassembler. Si tu comprends qui est Dieu et si tu fais partie de la famille de Dieu, je peux te dire que ta vie, elle va à 90%, elle est très très bien. Si tu ne comprends pas qui est Dieu et si tu es déconnecté du corps de Christ, ça, la dégringolade va commencer. Parce que l'œuvre de la croix, elle repose sur Dieu et puis sur son amour de rassembler. Par exemple, je vous donne un exemple sur la croix. Non, je le donnerai après. Non. Ouais, je vais le donner après. Alors, on va prendre des éléments prophétiques de la croix, ça vous va ? Si Jésus, il a une couronne d'épines, si Jésus, il a bu du vinaigre, si Jésus, tout ça, ça voulait dire quelque chose. Ouais ? Donc, on a trois croix, vous êtes d'accord ? Il y a deux brigands et Jésus. Ça montre, il est au milieu, le monde pécheur qui rejette le Messie et le monde pécheur qui se tourne vers le Sauveur. Et Jésus, il est là, il est au milieu. Il y a ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas, mais il est là. Et chacun choisira. C'est ça la croix. La croix, quand il y a eu trois personnes, c'est parce qu'il y a eu un message qui disait, voilà, je me tiens au milieu. Tu viens ? Tu viens ? Et il y en a un qui dit je viens, et il y en a un autre qui dit non. Et c'est ça la vérité du message. C'est qu'il y en a qui vont l'accepter et d'autres pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il y en a eu trois. Ensuite, dans Jean 19, 17, il est marqué que Jésus était crucifié à Golgotha. Golgotha, ça veut dire lieu du crâne, car c'est là que tout se joue dans nos vies. Un homme est-elle les pensées ? Tu es ce que tu penses. Dis à ton voisin, tu es ce que tu penses. Il faut que tu penses à ce que tu penses. Et oui, si tu veux guérir, il faut penser à ce que tu penses. Dieu, quand il décide de mourir sur Golgotha, il dit, je vais leur laisser un message prophétique que l'œuvre de la croix peut libérer ta tête. Parce que tout se joue dans la tête. Parce qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus, comme j'ai dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit et ça y est, renouvellement de l'intelligence. Ça peut venir, ça nettoie la tête. C'est pas vrai que le christianisme, ça nettoie la tête ? Tu pensais comme ça, mais non, tu penses comme ça. Si Christ est mort à la croix sur Golgotha, c'était pour avoir, j'appelle ça moi l'unité centrale. C'est pour que tu puisses récupérer l'unité centrale et fonctionner normalement à nouveau. Parce que quand tu as compris que la croix, juridiquement, avant, l'ennemi il a le droit de te balancer toutes les pensées qu'il veut. Hein. Il peut y aller, il peut mentir et tout. Et quand Christ est mort à la croix, il dit « Attends, stop. Maintenant, sa tête, elle est à moi. C'est moi qui vais lui insuffler des pensées de vie, qui va lui insuffler des pensées prophétiques, qui va lui donner des songes la nuit. Je récupère sa tête. » Et si tu as une relation avec le Saint-Esprit, moi je le vois tout de suite, hein, les gens qui ont une relation avec le Saint-Esprit, ils sont psychiquement équilibrés. Tu ne deviens pas mystique hein, quand tu es un chrétien qui a une relation avec le Saint-Esprit, c'est l'inverse. Tu deviens extrêmement équilibré. C'est Neil Anderson qui dit une bonne théologie fait une bonne psychologie. Si tu comprends les vérités de la Bible de Dieu, il y a beaucoup de psychiatres chrétiens qui disent qu'ils guérissent les gens qu'avec ça. Ils leur redisent les vérités dans la tête. Maintenant, ta tête, tu la récupères. L'ennemi, imaginez-vous les démons qu'il devait y avoir dans la tête d'Hitler quand même. T'imagines le gars, les trucs qu'il devait penser. D'ailleurs, ses médecins, ils lui filaient de la drogue et tout. Hein, il était complètement... La drogue, je fais un aparté, le but de la drogue, il faut toujours prier pour la défense des gens qui sont drogués. La drogue, elle a pour but de te mettre dans un état pour récupérer ton cerveau. Et c'est pour ça que dans beaucoup de trucs occultes et tout, vous savez, ils droguent les gens, ils partent en transe et tout ça. Comme ça, ils ont votre volonté, votre intelligence. Vous comprenez le truc ? Hein, vous voyez, c'est ça qui est important. Et quand Jésus, il meurt à Golgotha, c'est comme s'il disait, l'unité centrale, je la récupère. La tête, elle est à moi. Il va penser comme moi, il va réfléchir comme moi. Et bien sûr, il y a des domaines de délivrance et tout ça. Ça, on en parlera dans le module de l'autorité du croyant. Vous avez des questions, parce que j'avance, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui ? Que j'explique la Trinité ? Ouais, oui. Vous étiez mormon avant ? C'est ça, ouais. Non, c'est bien, c'est super. Qui vient d'une autre croyance avant le christianisme ? Islam, mormon, tout ça ? Oui, vous étiez quoi ? Les spirites, wow ! Donc tu sais, toi, de quoi je parle au niveau de la tête. Hein. Maud, toi, tout ce qui était hypnose, tout ça, tu comprends le système ? Ouais. Maud, elle me disait, quand on faisait les entretiens au début, elle me disait, l'hypnose, il t'endort. Et ils font ce qu'ils veulent, alors que le christianisme, il te réveille, il te rend participant, il te rend... Donc, mormon, qui d'autre, Sherazade, islam, d'autres croyances, vous étiez tous athées avant ? Catholique, ouais, mais catholique, il peut y avoir des fausses croyances, hein ? Ah oui, oui, hein ? Ah oui, oui. D'autres personnes, ben, Jeanne, toi, tu viens de tout ce qui était... Elle était astrologue, Jeanne. Voilà, elle était astrologue, donc tu vois, t'as une copine, enfin, une ancienne copine, bien sûr. Ok, donc il y en a, vous allez comprendre le truc. Ok, ben, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, si je te prends une bouteille d'eau. Quelqu'un a une bouteille d'eau ? Ben super, merci. Ça c'est Dieu. Le bouchon, on va dire le Père, le contenant Jésus et l'eau, le Saint-Esprit. Ça te va ? Mais c'est une même bouteille. Mais c'est ensemble. Et donc du coup, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est trois personnes distinctes en une. Mais ça n'existe que dans la Trinité. C'est divin. C'est divin. Moi, ce que j'aime bien expliquer, si je pouvais l'expliquer comme ça, c'est que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours tous d'accord, hein, ils ont tous la même pensée, mais ils agissent différemment. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est sur terre et il agit. Dieu, le Père, est au ciel. Jésus, il intercède, tu vois, mais il est venu un moment... Mais tous, ils ont la même mission. Et Jésus est Dieu. Et quand Jésus va venir, il va dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc c'est vraiment la même personne. Et il ne faut pas te casser plus la tête. Tu pries Dieu. Et ça, moi, je trouve que le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent chacun une partie du cœur de Dieu. Oui. Oui, ouais. Mais c'est très juste ça. Les évangéliques, ils annoncent beaucoup Jésus parce qu'on est très évangélisant. Donc on parle beaucoup de Jésus. Mais moi, je sais pas si tu as vu, mais à l'église, je sais pas depuis quand tu es là, mais je vous ai remarqué que j'ai beaucoup parlé sur le Père les derniers temps. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de chrétiens, et on en parlera cet après-midi sur l'identité en Christ, ils connaissent Jésus Sauveur, mais ils connaissent pas l'identité en Christ, le Père. Si Dieu est ton père, c'est-à-dire que tout ce qui est à Dieu est à toi par lien de filiation. Et donc il y a des gens, ils sont des chrétiens comme orphelins. Ils se savent sauvés, mais leur âme n'a pas compris. Et moi je dirais que l'esprit, c'est celui qui révèle et c'est la puissance de Dieu. Mais l'esprit normalement doit te mener à révéler le Père. Si beaucoup de chrétiens comprenaient le Père, tu n'aurais plus de chrétiens jaloux, insécurisés, anxieux, tu sais quoi ? On chasse pas un démon d'anxiété, on présente le Père aux gens. si les gens ils comprennent que Dieu le Père est avec eux, veille sur eux, pourvoit et tout, c'est bon, tous les mensonges s'arrêtent, parce que c'est dans la tête. Hein. Ouais, il faut présenter le Père. Mais ça, toute l'identité en Christ, c'est cet après-midi. Ça marche ? Oui ? Et le Notre Père, c'est quoi alors ? Ouais. Mais en fait, au nom de Jésus, si ça devient une formule, ça devient ridicule. Quand tu es chrétienne, Nelly, tu es l'enfant de Dieu. Et honnêtement, Wesley, quand il vient, il me dit pas. Par exemple, admettons que j'avais adopté Wesley. Il me dit, Wesley, il va pas venir me voir, me dire, au nom, maman, des papiers administratifs et juridiques dans lesquels tu m'as adopté, je viens te demander si je peux avoir un goûter. Il me dit, maman, je peux rien goûter. Il faut vraiment que tu abordes Dieu comme un père. Et évidemment que dans le monde spirituel, ils savent que c'est dans le nom de Jésus. Moi, j'utilise le nom de Jésus pour la délivrance. Je ne sais pas si vous voyez, quand je prie, je dis dans le nom de Jésus. Mais quand je vais parler à mon papa, je ne dis pas, papa, je viens, Jésus, il l'a permis. Je suis sa fille depuis le moment où j'ai été convertie. Donc, c'est bon. Et je lui dis souvent, moi, j'aime beaucoup Pierre quand il prie, mon mari, il dit souvent papa. Ça me touche la façon dont il parle à Dieu. Et il dit, papa, au secours. Il dit papa, tu vois, puis moi, j'utilise plus Jésus, Seigneur, tu vois, mais il dit papa, il dit vraiment papa. Donc il ne faut pas, en fait, la prière, à partir du moment où tu comprendras que la croix t'a ouvert complètement l'accès à Dieu, c'est bon Nelly, hein, t'as accès continuellement, tu pries quand tu veux, où tu veux, à n'importe quel moment, la croix a ouvert, on va en parler hein, de ça, la croix, ça a ouvert ce qui bloquait entre toi et Dieu, maintenant tu vas, et la Bible dit, on peut aller confiant. Et vous priez, et tu sais quoi ? Je pense que Dieu le Père, il préfère une prière sincère qu'une prière parfaite. Yes. Franchement, les prières récitées, là, vous savez, encore une fois, ça broyait le cerveau des gens. Moi, j'ai des gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, je devais faire 5 « Je vous salue Marie » pour tel machin. Tu vois, ça broie ton cerveau, alors que Dieu, il vient. Je crois vraiment, vraiment, hein, que quand quelqu'un se convertit, et je le vois, hein, les gens deviennent intelligents. C'est vrai. Avant, ils étaient nus, ils croyaient des trucs ridicules, ils étaient obscurcis, ils n'arrivaient pas à se concentrer, ils sont en échec scolaire, et des enfants qui donnent leur vie à Jésus, c'est comme si tout, ça s'ouvre. Amen. Parmi les plus grands scientifiques, c'est des chrétiens. Hein. Vous savez, le gars, là, le chinois là, qui a le plus fort QI, là, c'est quoi son nom ? Lui, il a dit, hein, non mais il y a Dieu, hein. Il y a Dieu, bien sûr. Donc, on va avoir aussi Barabbas, vous savez, il prend la place du brigand Barabbas, et le nom Barabbas, vous savez ce que c'est dire ? Fils du Père. Ben, c'est encore une fois, en fait, toute l'œuvre de la croix, toute la mort de Jésus, c'est que Jésus, il a dit, je prends la place en tant que fils du Père, humain, moi en tant que fils du Père Dieu, je prends la place. C'est fort, hein ? Il pouvait s'appeler Hugo, hein, le brigand. Hein ? Oui, ouais, c'est fort, hein ? C'est fort. Alors, le voile du temple, il se déchire, donc Matthieu 27, 51. Nous avons maintenant un accès direct, on en vient à ça, Anneli, au trône de Dieu, plus besoin d'intermédiaire. Ce voile dans le temple était le symbole de la séparation entre le lieu saint et très saint. Hein, donc c'était dans le temple, c'était comme ça. Et en fait, le rideau était épais de 20 cm. Et puis pour l'installer, ils avaient des chevaux qui l'ont monté. C'était vraiment le lieu très saint et tout. Et quand il s'est déchiré de haut en bas, il y a un historien, alors je ne voulais pas... Si, peut-être que je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas mis. Oh, dommage, j'ai cru que je l'avais mis. Il y a un historien qui a dit, avec la force avec laquelle il fallait pour déchirer de haut en bas, en 2 secondes, ce rideau, il aurait fallu un tremblement de terre qui aurait également ébranlé les fondements du temple. Donc, voilà, divinement, crac. La croix, elle sauve ta tête, et la croix, c'est le moment où, comme Satan avant, il disait, il est à moi, maintenant il est vraiment à moi, et Dieu, il va payer, et il va dire, maintenant il peut revenir vers moi. C'est énorme, l'œuvre de la croix, juridiquement, vous savez, c'est pour ça qu'on a besoin, comme tu disais, du Saint-Esprit pour révéler. Je ne sais plus, c'est toi qui le disais peut-être, mais le Saint-Esprit pour révéler, parce qu'en fait, spirituellement, il s'est passé un acte où Dieu, il a dit, à partir de maintenant, j'ouvre une écluse et quiconque veut venir peut venir. Et il se tient là et il tend la main. Ok ? Et c'est ça le truc qui s'est passé. Et tous les démons, là, je vous le dis, depuis l'œuvre de la croix, tous les démons sont en folie parce qu'ils savent que maintenant, il y a une porte de sortie. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, la Bible, elle dit qu'il est déchaîné sur la terre. Hein. Il se dit, c'est le moment. Et Dieu, il se tient à la porte. Il a ouvert la porte et il tend la main. Et c'est là où nous, on doit prier que ce qui s'est passé dans le monde spirituel s'ouvre dans les yeux des gens qui se disent, mais juridiquement, il y a une porte de sortie à ton addiction, il y a une porte de sortie à ta maladie, il y a une porte de sortie, il y en a une. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de dire ce qui se passe en spirituel, tout dans le naturel. Amen. C'est ça la foi. Et vous savez quoi, vous et moi, on bataille encore avec ça. Mais tous les démons, tous les anges, tout le monde sait très bien qu'il y a une écluse qui est ouverte. Eux, ils le savent. C'est à nous de réaliser la force de la chose. Vous savez, il y a le sang et l'eau qui sortent de Jésus. Vous savez, quand il le perce, ok. Donc, ça a deux symboles puissants. Le sang, c'est le pardon. Hein, et l'eau, c'est la nouvelle vie. C'est la vie. Donc, quand Jésus est mort à la croix, je reprends tout le long de la journée la cour juridique, ok. Il faudrait que je prenne un marteau. Il prend un marteau et il dit, non seulement la dette est payée, mais en plus de ça, toi, l'enfoiré, tu lui payes ce que tu lui as fait. La vie, tu lui rends au double. Alors, je recommence. La croix efface le mal et il y a la rédemption, c'est-à-dire l'ennemi doit payer ce qu'il t'a volé. Il y a la vie. T'es pas à zéro. Les gens, ils croient que la croix, c'est la remise à zéro. Non, c'est la remise à 8 milliards. C'est pas à zéro. T'étais à moins 40, maintenant je reviens à zéro. Ah non, 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 non. Dieu, déjà, va donner son Saint-Esprit, donc là, t'es déjà à 840 000 milliards. Et l'ennemi, tu dois reprendre les droits hein, qu'il t'a volés. Et c'est pour ça que quand moi, je prie, je dis, Seigneur, ma famille, elle a été pauvre de génération en génération, ça s'arrête. Et je récupère tout ce que tu m'as volé. Et t'inquiète pas, les calculs sont bons dans le monde spirituel. Si l'ennemi a rendu 3 générations pauvres, ça peut représenter des millions. Alors vous allez me dire, tu demandes des millions, Johanna, j'en ai pas besoin moi, mais pour l'église et tout ça, ouais. Et je vais vous dire, les finances de notre église n'ont jamais été aussi élevées. Mais du coup, j'ai envie qu'on construise des choses pour les pauvres et pour la jeunesse et tout ça. Moi, ça va, j'ai déjà ce qu'il me faut. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin d'une Porsche ou je ne sais pas quoi, moi. Ce n'est pas mon problème. Mais par contre, je crois vraiment que l'or et l'argent devraient être dans la maison de Dieu au lieu dans les mains de je ne sais pas qui. Okay? Encore faut-il que les chrétiens sachent bien le gérer. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais... la croix, c'est le pardon, c'est-à-dire le mal s'arrête et le bien arrive. Le sang enlève le mal et l'eau, c'est les flots de la vie qui arrivent, les flots. Amen. Donc juridiquement, au moment où Jésus est percé, dans le monde spirituel, imaginez les démons, ils ont dû se dire oh, « on perd notre emprise, oh, faut rendre tout ce qu'on a volé ». C'est ça qui se passe. Et toi, quand tu pries, tu peux te tenir et dire, dans le nom de Jésus, rends-moi, rends-moi. Et juridiquement, il doit te le rendre. C'est juridique. Oui, pardon, t'as levé la main? Très, très bonne question. Où ils étaient David, Abraham et tout ça? Ceux qui n'ont pas pu accepter Jésus dans leur cœur. Ils sont où ces gens-là? Et ceux qui ont fait le mal? Oui, très bonne question. Non? Oui, oui, ça je vous l'avais expliqué, oui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus, vous savez, il meurt et il va 3 jours quelque part. Il va où pendant ces 3 jours? Le corps est dans le tombeau, il va où? La Bible, elle dit dans le séjour des morts, ouais, le sein d'Abraham, et il a été cherché, la Bible, elle dit, il a été cherché ceux qui avaient mis leur espérance en lui. Je peux m'expliquer? Ça te va? Ça, c'est le facteur temps. Attends, je recommence. Yeah. Ça, c'est le facteur temps. Ça te va? La croix, elle est là. Alors, tu vas me dire, tous ceux qui sont là peuvent être sauvés. Et ceux-là, alors? L'œuvre de la croix, c'est une œuvre éternelle. Et tous ceux, la Bible dit, qui ont mis leur espérance en avance, je te donnerai le verset tout à l'heure, dans la croix, c'est-à-dire Tu sais, c'est marqué dans Hébreux 11. Abraham, il mit sa foi. Il mit sa foi. Il y avait une prophétie qu'un sauveur viendrait et ils ont cru au salut et ils ont mis leur espérance dans le salut. Mais ils ne pouvaient pas aller au ciel vu que l'accès n'était pas ouvert. Tu es d'accord avec moi? Donc ils ont été dans le sein d'Abraham, un lieu de repos. Et quand Jésus, pendant 3 jours, est dans le tombeau, la Bible elle dit qu'il a été les chercher et il les a amenés. Ils étaient là. Par contre, ceux qui n'ont pas marché avec Dieu, n'oublie pas que Dieu avait déjà créé l'enfer. Donc, eux, ils ont été directement. Et c'est pour ça que tu as l'histoire, tu sais, avec Lazare, où à un moment donné, il descend, et puis il dit, laisse-moi aller dire à mon frère, et il dit, non, c'est fini. Tu sais cette histoire, vous voyez de quoi je parle, voilà. Et là, il lui dit, non, c'est fini. Donc, pour eux, c'était déjà réglé. Et pour ceux-là, ils étaient dans une salle d'attente. Et c'est pour ça que le catholicisme a tort avec le purgatoire. Après la croix, c'est bien la croix qui te montre qu'il n'y a plus de purgatoire. C'est la croix qui élimine. Et d'ailleurs, ce n'est pas un purgatoire, ce machin. C'était un lieu de repos. Le sein d'Abraham, ou le séjour des morts. Ou, voilà, ça dépend le terme. Oui. Les églises des Juifs, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Eh ben non, toutes les bonnes œuvres qu'ils ont faites ne leur ont pas permis d'aller au paradis. Ils ont mis leur foi en Dieu. Toutes les œuvres ne t'amèneront jamais au paradis parce que tu vois, tu vas arriver, tu ne pourras jamais payer. C'est une dette trop importante. Et eux, ils ont, comme toi qui as mis ta foi en Jésus aujourd'hui, eux, ils ont fait pareil, ils ont dit, on met notre foi. Tu sais, David, il écrivait des psaumes. C'est quoi le psaume de la crucifixion? Non. 22, oui, c'est le psaume 22 et c'est Ésaïe 53. Celui de Ésaïe va prophétiser le Messie dans Ésaïe 53 et dans le psaume 22. Mais ces gens-là, ils ont touché la croix à l'avance. Et Paul, tu sais, il le dit, ils ont vu à l'avance. Donc ils ont mis leur foi, ils ont dit, je me repose dans l'amour de Dieu, dans mon Sauveur. Et ces gens-là vont dans un lieu de repos en attendant que la croix ouvre l'accès. Donc ils n'ont pas été au paradis, mais ils ont été dans un lieu de repos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce qui est juridiquement juste, je vous ai dit tout le temps, on va parler de justice, vous avez l'impression que vous allez sortir, vous avez des avocats, des... Mais c'est... Oui, pardon. Très intéressant. La loi n'a sauvé jamais personne. Alors, du coup, j'en viens à ça. La loi, l'Ancien Testament, ils vont demander la loi, tu sais, et Dieu leur dit, ah non les gars, vous allez voir, c'est impossible. Oui, mais si, non, ça n'ouvrira à rien. Et en fait, tu te rends compte que tous ceux qui ont été dans le sein d'Abraham, ce n'étaient pas des parfaits, hein, des David, parlons-en, le coquinou là, qui va faire la douche avec l'autre, là. Dans un jacuzzi avec, voilà, c'est pas très jojo. En fait, c'est tous des gens qui avaient une relation avec Dieu. C'est fort, hein? Ce qui les a sauvés, ce n'était pas la loi. Moïse, il aura une relation avec Dieu. Abraham, il aura une relation avec Dieu. Lisez Hébreux 11. Il les cite dans le Nouveau Testament, alors que c'est des gars de l'Ancien, parce qu'il dit, c'est leur foi en moi. Et ça veut dire que si toi, tu crois, ou moi, hein, que... Ah ben quand même, ceux de l'Ancien Testament, ils ont quand même obéi, alors du coup ils sont montés, eh ben t'as rien compris à la croix et moi non plus. Il est impossible d'aller au paradis, point barre, il n'y a que Dieu qui peut payer, la dette est trop grosse. Donc, et même, est-ce que tu ne trouves pas insultant à Dieu d'arriver toi et moi avec nos bonnes œuvres et de dire, ça va pour le paradis ça, j'ai chanté le dimanche et puis j'ai fait l'école de disciples à CBM Campus. C'est le paradis quand même. C'est le paradis. Je suis désolée, c'est un lieu parfait. Il faut que tu arrives parfait. Et c'est que le sang de Jésus qui lave. Normalement, en toi, ça fait yes. Vous ne trouvez pas? Ça fait yes, ça veut dire que c'est bon. c'est bon, j'ai rien d'autre à faire. Alors il y a des gens des fois qui me disent, mais alors Johanna, avec ça, c'est surtout les musulmans qui me disent ça, ils me disent, bah avec ça, c'est porte ouverte à n'importe quoi, puisque maintenant tu peux rentrer au paradis, t'as accepté Dieu. Ben non, parce que t'es tellement touché par l'amour. Regarde, franchement, si moi je donne ma vie pour toi, après tu vas pas dire, merci Johanna, allez, va dégage. Tu vas me dire, purée, là, Joe, la vache. En fait, t'es tellement touché par l'amour de Dieu. En fait, un chrétien qui se dit « Trop bien, j'ai le salut d'assurer dans la poche, maintenant je peux faire ce que je veux », il n'est pas chrétien. Forcément. Ben, vous et moi, vous êtes d'accord qu'on est mal à l'aise avec le péché. Eh bien voilà. Voilà. Et d'ailleurs, la grâce, moi je dis souvent aux gens, la grâce, elle a deux côtés. Elle te pardonne et après elle te fortifie pour plus pécher. Ce n'est pas juste le cover-up, c'est comment on dit en français, aide-moi Pierre. Je couvre les péchés. Hop, voilà, c'est fini. Ah non, 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 ça ne couvre pas les péchés, ça t'en sort. Une vraie grâce ne fait pas que pardonner. Une vraie grâce, quand tu la comprends, elle te sort du péché. Et c'est pour ça que si vous combattez un péché, c'est qu'il y a quelque part, vous n'avez pas compris la grâce. Parce qu'en t'appuyant sur l'œuvre de la croix et de la grâce, c'est comme ça que tu vins le péché. Ce n'est pas en te disant, demain je ne recommence plus, demain je ne recommence plus, demain je ne recommence plus, parce qu'on l'a déjà tous fait. Et on a recommencé. Et si tu t'appuies sur tes bonnes œuvres, tu ne pourras pas. C'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, la grâce. Et c'est pour ça que moi, tous les épîtres de Paul, il dit que la grâce soit avec vous. Vous savez, il commence. Parce qu'il se dit tout ce que je vais leur dire. S'ils ne s'appuient pas sur la grâce, ça va redevenir des règles. Donc il commence toujours ses épîtres par la grâce. Oui, Linda, pardon. Alors, Dieu donne l'opportunité, la Bible, elle dit, à tout le monde, au moins une fois, d'entendre parler de Dieu. Soit un songe, soit quelque chose. Donc ces gens-là qui ont une véritable recherche, Dieu va se révéler. Tu vois ? Il dit, c'est marqué dans leur cœur qu'il y a une recherche. Et donc le Saint-Esprit les trouve. Oui, oui, tout à fait. Voilà, par exemple. Okay, donc on revient à la justice. Dieu est juste. Qu'est-ce qui va mettre des gens en enfer sans leur avoir donné l'opportunité avant de choisir ? Ce serait vraiment un Dieu malade. Tu vois, alors toi tu seras sauvé, toi non. Ah ben c'est sympa, mais retente pas être né, hein, excusez-moi. Hein. Mais il donne l'opportunité à tout le monde. Oui ? Alors c'était quoi les sacrifices ? C'est une très bonne question. Dans l'Ancien Testament, c'était quoi les sacrifices ? Ouais ? Alors t'imagines, ils allaient au temple par exemple pour purifier les péchés de l'année. Imagine, tu sors du temple et tu te prends la tête avec ta femme. Eh ben, rebelote. En fait, si vous lisez l'Ancien Testament, ils avaient des sacrifices des fois de 1000 vaches, de 600 moutons. C'était du sang. Et honnêtement, c'était pour moi la preuve que Dieu montrait en disant, vous voyez ce qu'il faudrait ? Vous imaginez ce qu'il faudrait ? Et ça leur montrait que c'était impossible. La loi, elle te montre que c'est impossible, et les sacrifices te montrent que c'est impossible. Toi et moi, on devrait venir tous les dimanches et égorger 18 brebis avec tout ce qu'on fait la semaine. Mais eux, toi et moi, aujourd'hui, ça nous semble absurde, donc voilà, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait que ça. La seule chose qui les a sauvés, la seule chose, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. C'est les seuls. Tous ceux qui ont égorgé des brebis, qui ont été dans les temples, les pharisiens, ils disaient, on prie plus que tous les autres, machin. Puis Jésus leur disait, il suffit d'aimer Dieu, il faut aimer Dieu. On fait ça. Aimez Dieu, aimez votre prochain, aimez Dieu. Parce qu'ils n'aimaient pas, hein, les pharisiens. Quand tu es dans l'œuvre, tu sais, c'est tout toi. Hein. N'oublie pas, hein, la croix, c'est donné, c'est ouvert. Donc du coup, ouais, c'est très... Vous savez, c'est quoi la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? On en revient aux lois spirituelles. Purée, on s'arrête dans 5 minutes, ça vous va ? Je finis avec ça. Les lois spirituelles, dans l'Ancien Testament, est-ce que des malades pouvaient guérir dans l'Ancien ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des morts qui ont ressuscité dans l'Ancien ? Oui. Est-ce que des démons ont été chassés dans l'Ancien ? Non. Aucun. C'était impossible. Spirituellement, le diable avait cet accès. Donc, quand des inconvertis vous disent « Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, ils massacraient des peuples entiers ?» Parce que il n'y avait pas possibilité de chasser les démons. Donc comme les démons sont générationnels et se transmettent, ils éliminaient tout le monde pour éviter que la maladie se propage, que le virus se propage. Et donc la raison pour laquelle les choses shift dans la venue de Jésus, c'est que lui, par contre, il a autorité sur les démons. Et d'ailleurs, ils vont le dire. Vous savez, à un moment donné, ils le disent. Même les démons lui sont soumis. Et il commence là. Au début, il pense que c'est un prophète comme les autres. Il fait des miracles comme les autres. Il ressuscite des morts comme les autres. Ça les a pas. Mais chasser les démons, c'est-à-dire que juridiquement, c'était Dieu. Et Dieu, il peut dire au diable la ferme. Et là, ils se sont dit, oula, il y a un truc en plus. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre qui était peut-être Dieu. C'est pas quand ils ressuscitaient les morts ni guérissaient les malades. C'est quand ils chassaient les démons, parce que, n'oubliez pas, c'est juridique, ils se sont dit, ouh, celui-là, il a un pouvoir supérieur aux autres pouvoirs. Il a un truc en plus. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, permettez-moi de vous le dire, toutes les églises qui ne chassent pas les démons, pour moi, sont juridiquement hors clou. C'est fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Et pire, tous ceux qui enseignent que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons, c'est encore pire. C'est vraiment dire à le prince William, lui dire, tu sais qu'en fait, tu n'es qu'un clochard, alors qu'il est prince William. Et les chrétiens, vous chassez les démons, vous pouvez être libre des démons, et c'est la preuve même que l'autorité a été renversée. Donc c'est, pour moi, c'est la pire chose, c'est de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas avoir de démons. Quoi. C'est tout bon ? On fait juste Pilote et Hérode ? Il y a Pilate... Pardon. Pilate et Hérode. Pilate et Hérode, c'est les. Donc c'est très particulier. Pilate, c'est les Romains, ok. Et Hérode, c'est les Juifs. Ils se haïssent en temps normal et comme par hasard, au moment de la croix, ils font copain-copain. C'est le seul moment où ils vont faire copain-copain, hein, d'accord. Et qu'est-ce que ça représente? Eh ben, regardez, on lit ça ensemble. Le monde et le religieux, deux choses qui tuent le christianisme. Ce qui a tué Jésus, c'est le monde et l'esprit religieux. L'esprit religieux, tu sais ce que c'est ? C'est une coquille vide. C'est Jésus sans le cœur de Jésus, sans l'esprit de Jésus. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est le faux. C'est le faux christianisme, l'esprit religieux. Et moi, je préfère, c'est fort, hein, je ne devrais pas dire ça, c'est, pardon Seigneur, mais je préfère les gens du monde qu'à l'esprit religieux. Les gens du monde, je leur pardonne tout. T'es une prostituée, t'es une droguée, j'en ai rien à faire. Mais l'esprit religieux, j'ai envie de les boxer. Parce qu'ils me mentent, ils mentent sur mon Jésus. Ils présentent un faux Jésus. Ils disent que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Ils disent que le Saint-Esprit, c'était pour avant. Et puis les gens, ils viennent dans les églises et c'est pour ça qu'il y a autant d'abus sexuels. Pourquoi ? Parce que les gens, ils viennent en disant oh, « c'est Jésus !» Et clac, ils se font avoir, c'était pas Jésus. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Tous les esprits impurs peuvent se balader comme ils veulent. Il n'y a pas la délivrance, donc tous les esprits impurs... Vous savez quoi, si j'étais le diable, je serais un cheval de Troie. J'irais me planquer parmi les chrétiens pour tout faire péter de l'intérieur. C'est la résistance qui a fait qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale. Il faut des espions, donc le diable, il fait ça. Et donc, Hérode, pour moi, c'est lui le pourri. Parce que quand vous lisez l'histoire, Pilate, il n'était pas très à l'aise de tuer Jésus quand même. Mais Hérode, alors moi j'ai du mal avec les esprits religieux. Ah là 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 là. Bref, bon appétit, je vous aime, à tout à l'heure.